De deux gamins de 20 ans à peine qui ont fait bouger toutes les lignes, celle du goût, celle des images, celle du star system, celle des concerts aussi. Aujourd'hui, Pop & Co et Pop & Daft Punk, et on va se concentrer essentiellement sur leur musique. En 1993, la presse anglaise qualifie Darlin, leur premier groupe, de Daft Punky, punk idiot. Et de ce rejet, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo décident de faire leur nom. En même temps qu'eux s'imposent d'autres artistes comme Laurent Garnier, Étienne de Crécy, Motorbass ou R, on les a tous réunis sous le nom de French Touch. Eux et Daft Punk ont contribué à mettre la France sur la carte de la musique mondiale. C'est donc l'histoire d'une épopée pop qui a pris fin le 22 février dernier par le biais d'une vidéo qui annonçait la séparation de Daft Punk et qui annonçait aussi la fin d'une époque. Un autre artiste français, lui aussi, est à l'affiche de Pop & Co ce matin, c'est Alain Bachung. Grâce à la réalisatrice Edith Fambuena, on pourra écouter des documents de travail, la voix a cappella de Bachung, bref, des documents totalement inédits. Un peu avant midi, on entrera dans les coulisses d'une des chansons de l'album posthume de Bachung. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Les voix de France Inter ne font pas que parler au micro. Il leur est arrivé de chanter aussi, et il en existe une preuve que j'ai déjà diffusée, mais dont j'avoue ne pas me lasser. Ça se passe en février 2014, et pour pallier l'absence de Daft Punk aux Victoires de la Musique, Philippe Collin et Xavier Mauduit convient donc des voix d'Inter pour interpréter Get Lucky. Il y a Patrick Cohen, Sonia De Villers, Charlene Vandenecker ou Jean Lebrun.
Il se présente à Snowraven.
Je sais pas, moi je dis comme ça.
Your gift keeps on giving.
Tu sais, moi je suis pas une référence.
What is this I'm feeling?
Elle est pas désespérée, hein.
If you wanna leave, I'm ready.
We've come too far to give up who we are.
Pousque capouche.
So let's raise the bar and our caps to the stars.
Mais avant que Daft Punk et ce morceau en particulier ne deviennent tubesques, au point d'être chantés par toutes et tous et de s'imprimer fissa dans la mémoire collective, avant ça, disais-je, il faut remonter 20 ans plus tôt, en 1994, donc. Cette année-là, le ministre s'appelle Édouard Balladur. Les jeunes descendent dans la rue pour manifester contre le CIP, ce contrat d'insertion professionnelle qui prévoit de les rémunérer à 80% du SMIC. On vante aussi la loi Toubon, qui ambitionne de protéger le patrimoine linguistique français. Et en même temps, on inaugure le tunnel sous la Manche. Dans l'odyssée du duo Daft Punk, c'est ce dernier événement qui va le plus compter.
Bon, alors je suis désolée, c'est un peu le bazar.
Tel est le message d'accueil lorsque quelqu'un ou quelqu'une franchit le seuil du bureau de Pop & Co. Aujourd'hui, c'est Stéphane Jourdain qui y fait son entrée. Stéphane Jourdain est l'auteur de French Touch, une épopée électro, disponible en poche aux éditions du Castreur Astral.
Les Daft Punk, ils vont être tout de suite salués par la presse anglaise. Et donc, il va y avoir cette espèce de tampon validé par les Anglais. Et c'est comme ça que ça va arriver. Parce qu'au début, quand les Daft Punk arrivent, les Inrock les défoncent. Et bien, hein, sur une double page, en disant que c'est du porno soft pour M6. Il n'y a pas un relais de la presse française. Elle ne regarde pas tout de suite ce qui se passe au niveau de tous ces producteurs français, et notamment les Daft Punk. Il faut se rendre compte aussi que tout se joue en quelques mois. C'est-à-dire que dans les années 96-97, vous avez tout d'un coup Daft Punk, Étienne de Crécy, Cassius, tous ces gens font des albums qui sortent exactement en même temps. Donc les Anglais notamment, et les Américains aussi, se ruent sur cette musique, ils cherchent à savoir qui sont ces types. Et à chaque fois, ce sont des Français. Donc c'est complètement révolutionnaire, parce que il y avait des tonnes de journalistes anglais qui faisaient toute leur carrière sans jamais chroniquer un disque français. Et pourquoi ? Parce que pour les Anglais, les Français, c'est quoi à cette époque ? C'est Patricia Cass, Johnny Hallyday, et pour eux, Johnny Hallyday, bah, c'est le dégoût total, quoi. Ça n'a pas sa place sur la carte mondiale de la musique. Et là, tout d'un coup, toutes les unes de journaux musicaux dédiés à la dance music et à la techno, et même plus largement à la pop, vont mettre en avant des petits Français. Donc il y a ça qui change tout de suite.
Et pendant ce temps, à la télévision française...
Je suis contre la techno, contre la musique.
Pourquoi ?
Parce que ça fait du bruit. Voilà.
Comme souvent, lorsqu'apparaissent de nouveaux sons, la musique crée un fossé entre les générations. Au mi-temps des années 90, l'arrivée de Daft Punk crée une rupture peut-être aussi importante que fut celle des Beatles dans les années 60. Au mi-temps des années 90, les parents qui furent bercés par les Beatles pensaient comme George Moustaki, qui déclara ceci sur France 3 au sujet de la techno.
J'attends que ça passe parce que ça ne veut pas... Je veux dire, pour moi, c'est le contraire de la musique, de la mesure. La musique est une vibration qui transmet une vibration. Et là, ce sont des secousses électriques. Enfin, je ne veux pas être passéiste et réactionnaire, mais... On n'a pas fait le tour de la musique telle qu'elle est depuis toujours et pour toujours. Et alors toutes ces incursions dans le monde technologique pour lui donner une autre couleur, une autre robe, je m'intéresse pas, je tourne le dos.
À la télévision, les rêves sont traités comme des trucs de délinquants. C'est vraiment une image hyper négative. Il y a cet article dans l'Humanité en 1993 qui explique que c'est des environnements néo-nazis dans les rêves. Donc au mi-temps des années 90, on est en plein là-dedans.
Révolution. Daft Punk reprend ce mot pour l'un des morceaux qui figure sur leur premier album en 1997. Révolution 909, c'est le titre. 909 en référence à la boîte à rythme TR-909. Le morceau commence par la reconstitution d'une scène, des flics déboulent pour mettre fin à une rave clandestine. Dans une interview que Daft Punk accorde à David Blow en 1997, Guy Manuel de Homem Christo, l'un des membres du duo, raconte « La découverte de la techno s'est faite quand on a commencé à sortir. Et les premières rêves, c'était l'hallucination. Découvrir qu'il existe une forme de musique différente. » Quand tu arrives devant l'entrée, que tu restes dehors dans le froid et que tu entends les vibrations rythmiques, le boum boum qui sort de la salle, c'est le plus grand des frissons. Ce boum boum, c'était un autre monde.
La techno à cette époque, c'est quelque chose de pas mélodique, de très métallique, c'est quelque chose de très dur. Il faut une oreille avertie pour prendre du plaisir à écouter ça, et c'est une musique qui est quand même faite beaucoup pour danser dans des rêves, parfois avec l'aide de la drogue, et pas pour l'écouter dans son salon. Et Daft Punk arrive avec un album techno, mais tout d'un coup, ils mettent des basses funky, des choses discoïsantes qui ont un effet complètement novateur, c'est-à-dire qui vous donne envie de sourire et de danser. Est-ce que vous n'aviez pas du tout sur la partie sourire avec la techno qui était beaucoup plus froide ? Eux, ils vont vraiment donner un truc qui fait danser les filles, qui fait sourire. Eux, ils font sortir la techno des rêves pour l'amener au grand public.
1997. Daft Punk répète trois mots 144 fois. Around the world. Un truc en boucle, comme l'obsession d'une comptine de gosse. Et puis il y a l'évidence mélodique, qui a l'air sortie d'un jouet d'enfant aussi. Around the world est l'un des plus gros tubes internationaux de la décennie. Le clip est réalisé par un Français, pas encore cinéaste, c'est Michel Gondry. « Les Daft Punk ont quatre pieds, comme tout le monde. Un pied dans l'underground électronique, dans la lignée des pionniers qui ont inventé cette musique à Détroit et Chicago dans les années 80, et un pied dans un registre musical grand public, disons plus commercial. Pour les deux pieds qui restent, vous les placez où vous voulez. En tout cas, tout au long de leur discographie, ils ont réussi à tenir sur ces deux jambes, musique pointue et grand public. Ils font donc partie de ceux qui imposent une révolution musicale, mais pas que. C'est l'histoire de deux gamins qui imposent leurs règles à l'industrie. Stéphane Jourdain, auteur de French Touch, une épopée électro.
En 1995-96, les deux Daft Punk, à cette époque, ils ont 18-19 ans. Donc ils sont tout jeunes. Ils ont fait quelques morceaux et on sait que ce qu'ils ont fait est super et qu'ils sont en train de travailler sur un album. Donc tout d'un coup, tu as beaucoup de maisons de disques qui vont vouloir signer ces deux petits jeunes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux petits jeunes leur disent « Attendez, nous... on va finir cet album tout seul et on va vous donner quelque chose de complètement terminé. Charge à vous de le diffuser, de bien le diffuser, mais vous n'aurez pas de droit de regard sur ce qu'on fait. » Et ça, c'est complètement nouveau parce que quand t'as 19 balais et qu'une maison de disques s'intéresse à ta musique, évidemment que en général, tu fonces et que t'es trop content et que tu laisses la maison de disques écouter ce que t'as fait et te dire « on vaudrait mieux le faire comme ça ». Eux, il n'en est pas question. Ça vient d'où ? Ça vient du père de Thomas Bangalter, qui est producteur, qui a produit la compagnie Créole, les Gibson Brothers, qui connaît le métier absolument parfaitement. Et donc, Thomas Bangalter aura une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire.
Alors ça, c'est lié au fait que Thomas Bangalter vient d'une famille qui lui permet d'avoir tous les codes de l'industrie de la musique, mais c'est aussi lié à la nature même de la musique électronique. Qui
ouais.
Se fait à la maison.
Oui, bien sûr. Oui. Et c'est aussi lié au fait que Thomas Bangalter, c'est un type qui relie tous les modes d'emploi de toutes ses machines, toutes les semaines, tous les mois. Il est vraiment connu sur la scène française comme le type en France qui maîtrise le mieux ces machines-là. Donc il est en capacité totale, et c'est ça la révolution du home studio, du studio à la maison. Il est le mieux placé pour finir cet album et pour le faire de A à Z.
Il a besoin de personne.
Et on ne peut pas lui vendre des spécialistes du son, des grands studios, d'aller enregistrer à Londres, je ne sais quoi. Lui, il a toutes ses machines. Comme il vient d'un milieu bourgeois, il a pu se les acheter. Ensuite, tout ça est écouté sur un petit ghetto blaster dans une chambre d'adolescent. Hein. Ce n'est pas non plus des moyens insensés. Mais il maîtrise tout de A à Z. À la maîtrise de la musique s'ajoute en plus ce truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des avocats pour les conseiller et pour signer ces contrats en bonne et due forme jusqu'au bout.
Eux créent une révolution dans la place de la France sur la carte de la musique mondiale. Quel est leur rapport à la France ?
Eux, les Daft Punk, la France, ils n'en parlent jamais. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qu'ils mettent en avant. Ils sont pas du tout dans le drapeau tricolore. Ils sont dans un truc, clairement, où il n'y a plus de frontières.
En ce sens, c'est un groupe qui incarne la mondialisation ?
Ah ouais, complètement. Dès le départ, ils sont allés jouer en Angleterre. Ils jouaient plus en Angleterre qu'en France au tout début. Ils ont fait hyper attention à ce qu'il y ait une distribution mondiale de leur musique. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi leur maison de disques au début. Donc ça, c'est vraiment... Ils sont complètement novateurs dans leur temps à ce moment-là. C'est qu'ils sont complètement dans une logique transfrontalière et pas du tout dans une espèce de revendication du goût à la française ou d'une musique française.
Oh la vache. Je crois bien que je n'ai pas encore prononcé le titre du premier album de Daft Punk qui les consacre dans le monde entier en 1997, donc je m'exécute illico. C'est Homework, travail maison. Titre particulièrement d'actualité en ce moment. Homework, un travail fait à la maison donc, et qui a valeur de manifeste. Oui, la musique peut être faite depuis chez soi, sans studio coûteux nécessaire. C'est punk en somme, cette philosophie de « je fais tout par moi-même ». Et la nouveauté, c'est que cette musique conçue en autonomie totale depuis une chambre d'ado va être diffusée dans le monde entier.
Bonjour, vous êtes à New York chez Vinylmania.
Extrait
d'envoyé spécial, ce jour-là, 21 octobre 1999, le magazine a pour sous-titre « Techno, la touche française ».
On a plein de disques français ici. La France est en train d'exploser. Bien sûr, Cassius, tout le monde connaît Cassius. On le trouve même en édition américaine maintenant. Je devrais avoir un Daft Punk à vous montrer. J'ai tout vendu. En fait, on est toujours à court de Daft Punk. Stardust, ça a été incroyable. On a vendu des centaines et des centaines.
Stardust, c'est le nom de la formation qui réunit Alan Braxx, Benjamin Diamond et Thomas Bangalter, moitié du duo Daft Punk.
Attends, il faudrait que je mette le casque peut-être, c'est ça je crois le truc.
Le présent casqué s'appelle David Blou, journaliste à Radio Nova et co-créateur des soirées Respect au milieu des années 90. Des soirées ou plutôt des nuits, d'abord organisées au Queen, club des Champs-Élysées, avant d'essaimer dans le monde entier. Ces soirées ont accompagné les représentants de la French Touch, dont Daft Punk.
Alors il s'est passé un truc assez marrant dans la deuxième moitié des années 90 autour de la France, parce que c'est vrai qu'en même temps que nous on faisait des soirées dans le monde entier, les Daft Punk étaient, enfin c'était bizarre de se trimballer, on allait à New York, nous on voyait des affiches de nos soirées dans tout New York, quoi. Donc c'était assez dingue d'être tout le temps présent, et en ce moment-là aussi, on rentrait dans des taxis et les mecs nous parlaient de la Coupe du Monde, même aux États-Unis où qu'on venait de gagner, donc effectivement, fin 90, la France est dans partout, c'est une obsession un peu partout, qui était assez grisante, hein, faut bien le reconnaître.
Nous sommes donc en 1998, les 35 heures sont votées, la croissance est de retour, bref, la France n'a pas peur, elle est prête. Prête à recevoir cette hymne au plaisir et à la sueur. Dans son livre « French Touch, une épopée électro », Stéphane Jourdain écrit « Avec Stardust, la French Touch quitte définitivement la pénombre de l'underground et devient la nouvelle variété des années gauche plurielle ».
D'accord, ok. Ben c'est quand vous voulez, hein.
Ça tourne.
Aujourd'hui, Pop & Co. Et... Merde, aujourd'hui, Pop & Co. Oui, pardon. Je recommence.
Et voici Laure Adler.
Vous écoutez France Inter. Et ce matin, Daft Punk est dans le Pop & Co. de Rebecca Manzoni.
L'heure bleue sur France Inter.
Vous entendez cette musique sur France Inter, donc, du lundi au jeudi, à 20h. C'est Laure Adler qui l'a choisi pour générique. Et c'est un morceau de Daft Punk qui s'intitule « Veridis Quo ». Tel que c'est écrit et tel que je l'ai prononcé, ce serait du latin. Mais c'est plutôt un détournement de l'anglais « Veri Disco ». Et il figure sur le deuxième album de Daft Punk paru en 2001, « Discovery ». J'espère que vous suivez avec tous ces jeux de mots. En 2001, Thomas Bangalter expose l'ambition de ce disque au micro de l'émission La bande passante d'Alain Pilot sur RFI.
Il y a 5 ans, la musique électronique n'avait pas du tout l'importance qu'elle a aujourd'hui, ni dans la société, ni pour les gens. Elle n'était pas vraiment encore acceptée, était encore marginalisée, et c'était une volonté pour nous de la faire accepter d'une certaine forme. Donc ce qui a apporté vraiment la musique électronique, c'est le fait de pouvoir faire de la musique chez soi, de pouvoir faire du bricolage et du fait qu'il n'y a pas vraiment de règles pour faire de la musique. On peut faire n'importe comment. Finalement, le point de départ du deuxième album, c'était aussi de... Une fois que on a pu démontrer, ou il a été démontré qu'il n'y a pas de règles, de peut-être élargir encore plus les styles musicaux possibles et l'appliquer à tous les styles de musique.
Élargir l'horizon musical, faire péter les chapelles et les diktats de ce qu'on appelle le bon goût, c'est l'ambition de ce deuxième album, Discovery. Tout mêler, la techno avec Supertramp, pas forcément apprécié par l'intelligentsia du rock. Par l'intelligentsia de la techno, on n'en parle même pas. Dans un numéro des Inrecuptibles du 3 mars dernier, François Moreau et Franck Verjade comparent le geste de Daft Punk à celui de Quentin Tarantino quand il réhabilite John Travolta avec son film Pulp Fiction. Dans l'album Discovery, Daft Punk cite le funk de Sister Sledge ou la disco d'Eddie Jones. Ils font aussi un clin d'œil à AC/DC avec l'ouverture tout en cloche de ce morceau. Il s'intitule « Aérodynamique ». Intro qui fait donc très fortement penser au titre « Else Bells » d'AC/DC, que voici. Non ? Vous écoutez Pop and Sadik sur France Inter, parce que je vais vous laisser écouter la suite à la maison. Nous changeons radicalement de direction. Albator, pourquoi ? Parce que Daft Punk va solliciter celui qu'il a dessiné, le mangaka Leiji Matsumoto, pour signer le graphisme de leur film d'animation Interstellar 5555, qui a l'album Discovery pour bande-son. Et revoici Stéphane Jourdain.
Il y a quelque chose de très enfantin dans les Daft Punk, ça parcourt toute leur œuvre. Il y a cette nostalgie de l'enfance qui est très forte. C'est pas pour rien s'ils ont fait appel au réalisateur d'Albator, dessin animé que cette génération regardait dans les années 80, pour faire un film en entier avec lui. Et donc il y a cette nostalgie des années 80, et eux, ils vont complètement la reprendre à leur compte et la digérer. Donc il y a des citations de Supertramp, des Buggles, tout ça sur un même album. Et ça participe de leur succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé Albator, il y a beaucoup de gens qui ont kiffé certains morceaux de Supertramp et certains d'AC/DC, et qui sont très heureux de retrouver tout ça dans l'œuvre des Daft Punk.
À partir de 2001, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo apparaissent avec des casques de robots. Dans les années 70, le groupe Kiss se planquait déjà derrière du maquillage. Sensiblement à la même époque, les Californiens de The Residents choisissaient aussi l'anonymat en remplaçant leur tête par des globes oculaires surmontés d'un chapeau haute forme. Et puis,
les DJ qui ont inventé la techno aux États-Unis, Underground Resistance, étaient tous masqués. Et ils avaient un message, on est masqués parce que nous sommes un collectif et que c'est la musique d'abord. Donc ça fait partie de cette histoire et de cette musique, et les Daft Punk le reprennent. Mais après, ils l'ont tellement bien retourné que finalement, c'est un groupe dont on aura vu énormément les images et l'image.
Allô Rebecca ?
Le micro est à David Blow.
Les casques de robots, c'est une manière aussi de dire on ne peut pas, c'est quelque part, ils cèdent aussi à quelque chose. C'était on ne peut pas ne pas vendre d'image. Il fallait bien vendre une image. Donc ils ont trouvé une image avec des robots, ce qui leur a permis de leur anonymat jusqu'au bout. Et quand on dit les Daft prennent le métro, c'est une réalité. Donc ils restent complètement anonymes, ce qui est complètement extraordinaire. Mais c'est un échec parce que finalement, au même moment où les Daft Punk explosent, qu'est-ce qui démarre en France et dans le monde? C'est Loft Story.
Loft Story, qui déboule dans nos télés françaises en 2001, l'année même où les Daft Punk optent pour leur casque.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Stevie.
Kimi.
Fabrice.
Kenza.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez.
Il y a comme un échec à un moment collectif de l'époque qui ne sera finalement le 21e siècle. Il sera peut-être techno, mais il ne sera pas Daft Punk ou toutes sortes de choses qui essayaient vraiment de casser un petit peu les codes. Et l'image est redevenue prépondérante.
Ce morceau-là est extrait du dernier album de Daft Punk, paru en 2013. C'est Random Access Memories. En 28 ans de carrière, le duo Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo n'aura finalement publié que 4 albums.
Allô, est-ce que le son n'est pas trop pourri ?
Qui pose cette question ? Bertrand Burgala, musicien, compositeur, interprète, producteur.
Ce qui m'a fasciné aussi, peut-être très vite, c'est qu'il y avait ce côté Kubrick chez eux, c'est-à-dire... On fait très peu de choses, mais on les fait de façon impeccable. Voilà, je trouve qu'il y a une concision, il y a une. C'est pas facile de faire peu, c'est de faire peu de morceaux, de faire pas souvent des disques, parce que chaque fois qu'il y a un nouveau disque, on les avait tellement attendus, tellement imaginés qu'on risquait d'être déçus. On était à une période qui arrivait où tout le monde s'inspirait de certaines choses et en essayant, si possible, d'effacer les traces. De faire un emballage qui donne un côté neuf, mode, on est dans cette civilisation, en musique, dans le design, dans la mode, et du coup, ça fait du surplace. Mais eux n'étaient pas dans ce truc-là, parce qu'ils avaient des admirations, mais ils ne les cachaient pas. Et on l'a vu avec, en particulier dans leur dernier album, des gens qui les ont vraiment influencés, chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de le faire, ils leur ont rendu hommage, ils ont essayé de travailler avec eux, et avouer, c'est revendiquer ces influences. C'est le meilleur moyen de s'en affranchir. Toutes leurs admirations, ils ont réussi à en faire quelque chose de très neuf. Il y a très peu de personnes qui ont inventé des techniques de production. Eux l'ont fait.
Dans leur dernier album, Random Access Memories, Daft Punk invite les figures qu'ils admirent. Nile Rodgers, guitariste, producteur et cofondateur du groupe Chic. Paul Williams, compositeur et acteur principal de Phantom of the Paradise, film de Brian De Palma et grande inspiration visuelle pour Guy-Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter. Et puis Giorgio Moroder, musicien, producteur, pionnier de la musique électronique. Moroder, compositeur entre autres de la BO de Midnight Express et de grands tubes de Donna Summer. Quand les Daft Punk l'ont convié en studio, Moroder pensait se mettre au piano. Mais ils ont dit « Non, tu vas plutôt nous raconter ta vie ». Et Moroder se présente et raconte la musique qu'il invente dans un morceau que Daft Punk a intitulé « Giorgio by Moroder ».
So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
En 1997, le premier album de Daft Punk revendiquait une économie de moyens avec un disque entièrement fabriqué à la maison. En 2013, le dernier album de Daft Punk en est l'antithèse. Un an d'enregistrement en studio, moins de machines, mais des musiciens qui jouent parce qu'il y avait l'ambition de retrouver la grâce des enregistrements réalisés dans les années 70. Sur ce disque, Random Access Memories, figure le tube Get Lucky. Et la sortie même de ce morceau, c'est du suspense savamment dosé, des cases cochées une après une, du suspense distillé étape par étape. On appelle ça le grand art du teasing. Si bien que le morceau fut un succès avant même sa sortie. Stéphane Jourdain.
Si on prend l'exemple de Get Lucky, il y a d'abord l'annonce qui travaille avec Nile Rodgers. Ensuite, il balance 10 secondes de ce morceau sur les grandes émissions américaines. Donc on a un extrait de 10 secondes de ce morceau et rien de plus. Et là, il crée le manque tout de suite parce qu'on entend cette boucle qui est assez géniale. Et il y a d'ailleurs des gens qui se sont amusés à utiliser cette boucle de 10 secondes pour en faire un morceau de 24 heures. Ensuite, ils vont à Coachella, grand festival de musique américain, rendez-vous de la hype mondiale, etc. Et ils vont balancer quelques secondes du clip avec Pharrell Williams, Nile Rodgers sur le clip de Get Lucky. Ensuite, ils vont acheter des énormes panneaux dans la plus pure tradition américaine sur les grandes routes de Californie pour vendre Get Lucky et leur album. Enfin, Get Lucky sort et bat tous les records de streaming dans la journée. Donc c'est ça la science du teasing de Daft Punk. Là, on a pris un exemple avec un morceau, mais on peut le retrouver pour plein d'autres morceaux et albums. C'est que ils apportent des petites touches et ils créent du manque et ils créent du besoin. Et c'est pour ça aussi que les gens ont été aussi tristes d'apprendre leur séparation, parce que on était à l'affût de cette petite touche, de ces 10 secondes de morceaux qui arrivent tout d'un coup, qui tombent du ciel, qui vous arrivent dessus et qui annoncent un nouvel album. Et au lieu d'avoir ça,
le 22 février dernier, jour anniversaire de la mort d'Andy Warhol, Daft Punk publie une vidéo qui annonce la fin de leur duo. Il serait 8 heures sur France Inter. Le 23 février 2021, le journal vous était présenté par Hélène Roussel.
Les deux Parisiens casqués des branches annoncent de leur séparation dans une vidéo lunaire sur YouTube hier. 6 Grammy Awards, collaboration avec les plus grands. Même les médias anglo-saxons en parlent encore. Loïc Piala, Los Angeles.
En 2006, Daft Punk s'est déjà fait un nom aux États-Unis, mais leur concert lors du festival californien de Coachella, au sommet d'une immense pyramide, les fait passer dans une autre dimension. C'est ce qu'explique le DJ Jason Bentley dans le documentaire Daft Punk Unchained.
À partir de ce moment-là, tout a changé. Tout concert de dance music se devait d'avoir un énorme spectacle sur scène.
Influence, c'est le mot qui revient le plus dans la presse américaine au moment d'évoquer la séparation d'un duo, qualifié par le New York Times d'énigmatique et peu intéressé par la célébrité. Aucun autre groupe français n'a eu autant de succès aux États-Unis ces trois dernières décennies. Hollywood est venu les chercher pour la bande originale de la superproduction Tron Legacy. Et lors des Grammy 2017, le moment qui a agité les réseaux sociaux reste l'apparition du duo aux côtés du Canadien The Weeknd sur le morceau I Feel It Coming. Ce 12 février 2017 à Los Angeles, la dernière fois qu'on a vu Daft Punk sur une scène. À Los Angeles, Loïc Pira pour France Inter.
Jusqu'à aujourd'hui, toute mention du nom, voire de la marque Daft Punk, a attiré l'attention. Comme si ces deux mots inventés au départ par la presse anglaise pour dire à quel point ils étaient mauvais, comme si ces deux mots, donc Daft Punk, étaient devenus un sésame, la garantie d'un succès planétaire. Et ce fut encore le cas en 2016 pour leur collaboration avec le Canadien The Weeknd.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're time. I'm just trying to get you high, fade it up this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
semaine, je vous cite quelques-unes des références dont on s'est servi pour écrire l'épisode du jour. Pour ce Pop and Daft Punk, il y a donc French Touch, une épopée électro de Stéphane Jourdain, paru aux éditions du Castor Astral, Le Chant de la Machine de David Blo et Mathias Cousin. C'est une bande dessinée devenue référence pour se plonger dans l'histoire de la musique électronique. Le Chant de la Machine va bientôt être réédité chez Alia. Et je vous précise aussi que le nouvel album de Bertrand Burgala, que vous avez entendu dans cette émission, ce nouvel album donc s'appelle Rêve Rêve Capital, il sortira en juin. Un premier extrait est déjà disponible sous le titre L'homme idéal.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Alors j'ai choisi un titre. Attends, excuse-moi.
Celle qui a choisi un titre, le prochain titre que vous allez avoir dans l'oreille, c'est Edith Fambuena. Edith Fambuena, musicienne, réalisatrice de disques. Edith Fambuena, grâce à qui on va entrer au cœur d'une chanson d'Alain Bachung dans quelques minutes. Mais pour tout de suite, elle a élu un duo, Camille et Balaké Sissoko. Leur morceau s'intitule Cora.
Il y a un truc qu'on est tous en train de vivre là, depuis une année, c'est comme si on était vierge de voyage, de rencontre. Et j'aimais bien cette idée de dialogue, de rencontre avec des continents différents, parce que en fait, Balaké Sissoko, c'est un Malien. Puis voilà, Camille qui chante sans chanter. Enfin, il y a, c'est un dialogue musical, c'est un dialogue humain. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est une vraie invitation, c'est généreux. Ça met en valeur la musique et ce qu'elle propose. Ça nous rappelle qu'on est vivant ensemble et ça nous rappelle qu'il y a des choses qui nous manquent et il faut préserver, quoi. Cette chanson, elle m'a fait ça.
Djourou, c'est le titre du nouvel album de Balaké Sissoko, un disque qui marie son instrument, la cora, avec des voix, celles d'Oxmo Puccino, Arthur Teboul ou Camille.
Je t'ai parlé.
chocs, du chocolat sans sucre ?
Non, ça va, là.
Ok.
Nous étions fébriles, mon micro et moi, parce qu'on était là, dans le studio appart d'Edith Fambuena, l'une des rares femmes à réaliser des disques, c'est-à-dire à mettre en son le fantasme d'un ou d'une artiste. Elle fut et est aux côtés de Jacques Higelin, Étienne Daou, Marianne Faithfull ou Alain Bachung. Edith Fambuena a fait partie de l'aventure Fantaisie militaire, album balise dans la discographie de Bachung et dans la chanson française en général. En 2018, Chloé Mons, femme d'Alain Bachung, sollicite Edith Fambuena pour réaliser un album posthume d'après des maquettes de chansons laissées par Bachung. Et plusieurs fois, Edith Fambuena a dit non.
D'abord, je ne me sentais pas légitime. Enfin, il n'y a personne qui est légitime par rapport à ça. Donc, et je savais que j'allais m'attirer déjà les foudres de Dieu parce que beaucoup de jalousie. Alain, il représente des choses. Tout le monde veut être son copain, tout le monde veut être son musicien. Tout le monde, enfin, il est essentiel.
Il y a aussi, vis-à-vis de lui, la question de la trahison aussi.
Cette question de la trahison, elle revient souvent. Hein. Quand on faisait Fantaisie militaire, c'est ce qu'il nous avait demandé à Jean-Louis Pierrot et moi. Donc il nous avait demandé de ne pas le séduire et surtout de le trahir. Parce qu'il n'y avait que comme ça qu'il pouvait sortir lui de son truc. Trahissez-moi, moi j'arrive pas à le faire tout seul, donc il n'y avait pas que nous. Il avait fait tout un truc pour mélanger en fait les trahisons de chacun. Il a fait une conjugaison de ça. Et puis ça a donné Fantaisie militaire.
20 ans après Fantaisie militaire, Edith Fambuena s'enferme avec la voix de Bachung disparue et il en sort notamment cette chanson.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien.
Ma peau va te plaire, c'est le titre.
Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui s'est donné du bien. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'or.
Je vais tout vous faire écouter.
Serre-moi encore.
Donc, toutes les étapes.
Sors-moi de terre.
Ce matin, Pop & Co est une odyssée.
Sers-moi encore.
L'odyssée de cette chanson dont le texte est signé Joseph Danvers. Joseph Danvers, qui a livré la première interprétation de Ma peau va te plaire.
Je vais vous faire écouter Joseph et la façon dont il, lui, s'implique dans le texte, on y croit.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien.
Après, il y a la version de Alain faisant du Joseph Danvers. On n'y croit pas une seconde. Première maquette.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien.
Donc là, on s'éloigne un peu de et Alain et de la chanson, selon moi.
Pourquoi vous dites ça ?
Il n'y a pas de sentiment, là. On a l'impression que...
C'est mécanique.
C'est mécanique, et puis on n'y croit pas. Il n'y a pas la locomotive qui fait « Mais pourquoi il me dit ça ? Mais pourquoi il y a... » Enfin, ça ne me touche pas. Alors, il cherche, et qu'est-ce qui se passe ? Comme il fait d'habitude, il prend le texte, et puis il s'isole, et puis il va chez lui, j'imagine, et puis il cherche comme ça, quoi.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui s'est donné du bien.
Alors voilà, c'est lui. Alors moi j'ai ça, je décide de partir là-dessus.
Sors-moi de terre.
Et là je commence à mettre des guitares pour le suivre. Donc c'est beaucoup d'éditions, beaucoup de machins comme ça. Pour aller chercher un truc qui... un bar. Qui quoi ? Un bar. Chercher un bar avec de la fumée, avec des cadillacs, des machins comme ça. Voilà, je pars là-dessus.
Vous essayez de lui trouver un décor, quoi.
Je cherche un décor, en fait, qu'il aurait aimé. Donc j'essaie de lui trouver... je fais le maçon. Mais je m'aperçois que c'est un peu claustro. Donc je lui dis... peut-être qu'il avait envie d'avoir un truc plus frais. Et là, je vais à fond dans le truc. On est dans les grandes plaines. Et puis on sort de tôle, quoi. Donc... je vous mets en plein milieu, on s'en fout.
Je suis aide-vin aux mille années volées.
Toujours la même voix, forcément, il n'est pas revenu, il n'a pas voulu revenir pour chanter. Ça, c'est la première version que je fais, mais ça me saoule. On dirait qu'il subit. Il n'est pas autoritaire, enfin, il ne me donne pas envie de le suivre, quoi.
Il n'a pas cette autorité naturelle-là.
Exactement. Ah, il était très exigeant, mais il était exigeant dans la sobriété. C'était pas tyrannique, il est pas ci, il est pas là. Mais par contre, on a envie de le suivre. C'est un leader. Et c'est là où j'ai décidé de l'habiller, enfin d'aller chercher, de me laisser guider par mes souvenirs. Et il m'avait dit qu'il y avait un truc qui l'avait marqué à vie. Et c'est, il était jeune, il était allé à la mutualité et il avait vu Gene Vincent. Et je me dis, mais en fait, pour le faire vivre, il faut que je le mette sur scène et je vais le mettre à la mutualité.
Avec Gene Vincent.
Exactement. Et je suis partie, j'ai tout détruit du début de la chanson, donc de la maquette que j'ai eue, et je l'ai amenée ailleurs complètement.
Ouais.
C'est devenu tant qu'on sent.
Par le biais de ce motif de guitare, Edith Fambuena convoque donc l'esprit d'un pionnier du rock, Gene Vincent, aux côtés d'Alain Bachung. Pour moi, Alain Bachung, c'était une certaine incarnation de la virilité. Le côté colosse, comme ça, vocalement, enfin, ce riff de guitare, il va dans ce sens. Et en même temps, il chante « Je suis cette femme ».
Bah oui, ça va avec. Enfin, c'est comme ça, moi, je lui rends honneur. Et en plus, il fait partie d'une génération de mecs, c'est pas les mecs modernes, hein, c'est pas... Bah ouais, enfin, faut dire ce qui est. Lui,
vous voulez dire le mec à l'ancienne.
Bah c'est un mec à l'ancienne, mais avec l'élégance des mecs à l'ancienne. Mais je trouve pas plus féministe finalement que ces mecs-là. Et ces mecs à l'ancienne, pas tous, mais en tous les cas, lui, il avait cette tendresse-là qui était terrible. Et moi, ça me touchait.
Je suis cette femme qu'on ne prend pas.
Je traite le truc de façon à le mettre sur scène.
Vous mettez un effet.
Ouais.
Qui fait qu'il est sur scène.
Ouais. J'ai l'impression. En tous les cas, c'est comme ça que je le rêve. C'est comme ça que je le projette.
Je suis presque belle, presque bien. Je suis cette femme forte de n'avoir plus rien.
Et derrière, on arrive à cheval, là.
Il y a un truc tribal, mais ça, il fallait que j'extraie les trucs parce qu'il adorait les grandes plaines des États-Unis quand on voit les machins. Enfin, ça le faisait kiffer, quoi.
Et puis, il y a une tournée qui s'appelle la tournée des grands espaces.
Un petit peu, quand même. Donc, ça, il fallait bien que je fasse quelque chose que j'aurais voulu lui présenter. Et ça serait complètement débile de ma part de penser qu'il l'aurait sorti de cette façon-là. C'est impossible.
Et ça, vous avez réussi à vous en détacher.
Oui, il fallait.
Ça vous est arrivé de regretter ou pas?
Non. Jamais. Mais me retrouver là-dedans, j'ai trouvé ça... Il y a eu un avant encore et un après, comme sur Fantaisie militaire dans ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir honoré quelque chose, en fait. Peut-être que je l'ai défendu. Je sais pas.
Et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre. Comme un semblant d'or.
Cette chanson figure sur En amont, l'album posthume d'Alain Bachung avec Edith Fambuena à la réalisation, et vient de paraître un vinyle où Bachung interprète Avec le temps de Léo Ferré, Les mots bleus de Christophe ou That's Alright Mama, rendu célèbre par Elvis, une série de reprises réunies sous le titre Bachung Covers. Koyen Guyen a mis ses plus belles oreilles pour réaliser cet épisode de Pop & Co avec Gilles Gaillard ce matin. Ilinka Negulesco a mis sa lampe frontale pour dénicher les sons et la doc. Et JB Audibert a mis sa robe à paillettes pour assurer la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Bob Marley. À samedi.